Donc on est dans Luc encore, Luc 12. On va lire à partir du verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. » C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéhenne. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 moineaux pour 2 sous, cependant pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup, plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Considérez comment croissent les lys. Il ne travaille ni ne file, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car ceux-là, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Prions. Seigneur, on vient à toi ce matin pour entendre de toi. Ouvre ce passage, éclaire nos cœurs, notre intelligence, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre ce texte et qu'on puisse savoir ce que tu veux nous dire, et Seigneur, qu'on l'applique dans nos vies. Sois glorifié ce matin, sois élevé. En ton nom, nous prions. Amen. On arrive ici, après l'épisode chez les pharisiens. On se souvient que le passage précédent qu'on a vu la semaine dernière, Jésus avait été invité chez un pharisien et il les avait vivement repris, réprimandés. il les avait vraiment choqués, il était un peu rentré dans le tas et qu'il était sorti de la maison avec les pharisiens, les scribes qui le pressaient, qui lui posaient plein de questions, qui essayaient de répliquer sur la fin du chapitre 11. Et juste après, il y a une foule qui s'assemble au point de s'écraser les uns les autres. Ça devait être une situation, je ne sais pas si vous imaginez, il y a les élus locaux devant qui sont énervés, qui sont là à poser des questions, à crier, et puis en plus il y a une foule qui commence à se marcher dessus, à se... Nous on lit ça comme ça, on lit ce texte vite fait, mais c'était du grand n'importe quoi. C'était limite s'il y avait, on savait pas s'il fallait envoyer le CRS, les Romains ils allaient arriver pour un peu calmer. Ça commençait à devenir physiquement dangereux pour les gens. Et pourtant Jésus, on a l'impression qu'il reste calme et mesuré, qu'il continue à, il sait exactement où il va, il voit la situation, il n'est pas paniqué, il parle ici au verset 1, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples. On a l'impression qu'il a ses disciples qui sont avec lui et il se tourne et il commence à discuter avec eux alors qu'il y a la folie qui se déchaîne autour. Ça fait toujours du bien. Dans ce passage, il va nous dire de pas nous inquiéter, de pas avoir de soucis mal placés, etc., etc., et de pas être attentif aux mauvaises choses. Et Jésus lui-même était toujours, dérouté par les événements, par la situation, par ce qui se passait autour. Si là on avait d'un coup 200 personnes qui rentraient, qui avaient une émeute, j'aurais du mal à continuer à partager avec vous. et Jésus lui, il n'est pas ça le déstabilise pas. Il voit la situation, il se dit tiens, c'est une occasion pour moi d'apprendre quelque chose en plus à mes disciples après ce qui vient de se passer, avec la foule autour là qui nous presse. Et il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Encore une fois, c'est par rapport au texte qui précédait, par rapport à tout ce qu'il leur avait dit, les discussions qu'il avait eues avec les pharisiens, toutes les reproches qu'il avait pu faire, et par rapport à la foule, et par rapport à ce qui se passe présentement pour les disciples. Il leur dit, attention à l'hypocrisie des pharisiens. Qu'est-ce que l'hypocrisie ? Est-ce que vous savez? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? C'est un peu... J'ai l'impression qu'on est, dans notre société, on est rapide pour traiter les gens d'hypocrites. J'ai l'impression que c'est un truc qui arrive souvent. Je sais pas, chez les politiciens ou dans différentes situations, j'ai l'impression que c'est un mot qu'on balance pas mal. Et c'est l'idée de se comporter, l'idée à la base c'était les acteurs, le théâtre grec, c'était le fait de mettre un masque, c'était cette idée de jouer un rôle. J'espère que les profs de français sont d'accord, c'est bon. Et c'est cette idée d'adopter des comportements ou des manières de faire, des choses qu'on va dire ou faire, ou comment on va s'habiller, l'apparence. Pour essayer de tromper quelqu'un pour une motivation, une raison qui peut varier, mais c'est un petit peu cette idée de vouloir apparaître autre que l'on est. C'est se comporter, mais pas en accord avec ce qu'on pense réellement, parce qu'on se dit dans cette situation, je veux quelque chose et il vaudrait mieux que je fasse semblant en fait. J'ai regardé un petit peu dans les dictionnaires, il y a quelques idées intéressantes. Un dictionnaire dit « Les hypocrites sont ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Plus qu'un manque de sincérité, c'est un manque de loyauté et de droiture. Le menteur ment, l'hypocrite parle bien contre sa pensée. Comme le menteur, mais son comportement suit des voies détournées qui révèlent une stratégie personnelle. » On peut aussi considérer l'hypocrisie comme la duplicité typique de ceux qui se posent en parangon de la vertu, alors que leur vie n'est que scandale. Et on est tous d'accord pour dire que quand on est face à quelqu'un qui a un comportement hypocrite ou quand il y a une hypocrisie qui est révélée, on est scandalisé, on est énervé. Et je pense aussi que j'espère que je suis pas le seul, mais je pense qu'il y a pas mal de situations dans ma vie où j'ai un comportement qui pourrait être qualifié d'hypocrite. Peut-être plus dans le passé, j'espère que Jésus me change et nous change et que j'aurai moins ces choses-là, mais est-ce qu'on n'est pas souvent tenté par ça dans les situations au travail où il y a une discussion et on se rajoute à, j'en sais rien, à, ça peut être plein de choses. Est-ce qu'on est les premiers à, quand il y a un mouvement de foule, là on va être dedans, on va être chaud, mais si on devait être tout seul à défendre l'idée, là peut-être pas. Est-ce que, même par rapport à votre foi, les gens vous demandent alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end et au travail, et puis mais on va pas dire j'étais à l'église. Et c'est d'autant plus un risque quand il y a une attention, quand il y a un certain succès, quand il y a un certain je pense quand il y a une certaine peut-être notoriété ou vis-à-vis des gens, les gens qui commencent à se dire tiens, qu'est-ce qu'il en pense lui, ou c'est quelqu'un qui a de l'importance. Il y a cette hypocrisie qui arrive parce qu'en fait, avec le succès, avec les gens qui nous donnent de la reconnaissance, en fait, on développe une peur de l'homme. On n'a pas envie on a peur de la réaction des gens si on dit vraiment ce qu'on pense. Donc, on va un petit peu, on va essayer de faire autre chose. Et ici, Jésus avec les disciples, c'est un petit peu comme s'il leur disait, voyez les foules, voyez la, il y a une certaine attention, il y a une certaine notoriété. Je vous ai dit, on était chez le pharisien et je vous ai dit qu'ils aiment bien l'apparence, l'être. Ils aiment bien que les gens les considèrent bien. Ils aiment bien les places devant les assemblées, les places au premier rang où ils sont honorés. Ils aiment bien arriver en soirée, que leur nom soit sur la liste des invités spéciaux, etc., etc. Et Jésus leur dit attention à ça, parce que c'est quelque chose qui commence par un petit, cette peur de l'homme, cette crainte qui induit cette hypocrisie, c'est quelque chose de petit qui commence dans des petites situations, des petits compromis où on se dit, on a cette petite, lui, je l'aime bien, il m'aime bien, je vais pas dire quelque chose qui va mettre ça en cause, je veux pas que, pour le travail, j'en sais rien, il y a plein de situations, c'est à vous de le sentir. Mais ça contamine tout le reste. Ça grossit, ça grandit dans nos vies. Ça commence avec un petit peu, et ça finit par contaminer tout le reste de nos vies, beaucoup de nos comportements. Quand on voit les gens qui soit dans les églises, malheureusement, des pasteurs qui tombent dans certains péchés, quand on voit des politiciens qui, j'en sais rien, les nouvelles, on a plein d'exemples qui vont dire il faut payer les impôts et on sait que eux-mêmes ne le font pas. Mais ça commence jamais comme ça. C'est jamais un truc où on arrive et on se dit les pasteurs qui tombent dans certains péchés, c'est jamais ils sont jamais dit un jour je vais faire ça, c'est bon et puis je vais continuer à prêcher. C'est des petites décisions, c'est des petites attitudes, des petites situations qui grossissent et puis il y a ces scandales qui arrivent quand c'est révélé. Et Jésus il dit attention à cette hypocrisie, parce que vous pouvez tromper l'homme, mais un jour, ça va être révélé. Un jour, tout ça va sortir. Ça peut sortir des fois lors de nos vies. On voit les situations où certaines personnes sont prises la main dans le sac. Hein. J'ai pas besoin de citer de nom. Vous avez des idées en tête dans les nouvelles. Mais l'hypocrisie ne marche que quand on garde certaines choses secrètes. Et Dieu, on peut pas garder des choses secrètes face à Dieu. Il voit tout. On peut pas être hypocrite face à Dieu. Ça marche pas. Et donc il dit aux disciples, faites attention parce que c'est tentant, on peut se dire, ah, face aux hommes, j'ai envie de faire un petit truc pour gagner quelque chose, mais il y aura des conséquences un jour, ça viendra. C'est les versets 2 et 3, on peut les lire ensemble. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Ça fait un peu froid dans le dos de se dire que ce qu'on aura dit en catimini dans certaines situations sera crié sur les toits. Et il leur dit, pour moi, on avait parlé la semaine dernière de la peur de l'homme, de l'idée que la peur de l'homme, c'est la réputation, et le fait de se soucier de Dieu, c'est plutôt le caractère, ce qu'on est quand on est tout seul dans sa chambre le soir, ce qu'on est dans les moments où les gens ne nous voient pas. Et ici, il leur dit, qui est-ce que vous pensez que vous devez, à qui vous devez vous accorder le plus d'importance? À ceux qui peuvent prendre vos affaires, vous jeter en prison, ou à celui qui peut vous annihiler complètement. Verset 5, je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Il dit, vous essayez de tromper les gens, d'accord, mais ils peuvent pas vous soucier de ce qu'ils pensent de vous. Mais en réalité, il faudrait mieux se soucier de ce que Dieu pense de nous. Si on croit vraiment, si on a vraiment la vision de la vie et du monde telle que la Bible nous le présente, à savoir que Dieu nous a créés et que après la vie sur terre, on va aller quelque part, soit en enfer, soit au paradis, la chose raisonnable et honnête, c'est de dire, je vais me méfier, je vais plus vouloir me faire attention à ce que Dieu pense de moi. Si on va vraiment vivre une éternité avec Dieu, ce que pensent les hommes de moi ici sur terre, d'y accorder trop d'importance, c'est ridicule. On est d'accord que c'est difficile, on a cette peur de l'homme en nous. Mais on doit prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Proverbe, c'est la crainte de Dieu. C'est pas une peur où on se dit « Oh là là, je vais me cacher, il y a Dieu ». C'est on a cette crainte, cette révérence, ce fait de dire « C'est à lui que je vais donner de l'importance. Ce qu'il pense de moi, c'est ça qui est important. » C'est la bonne peur. C'est pour les disciples, là, dans cette situation-là, où ils pouvaient peut-être avoir peur, on ne sait pas le degré d'hostilité exactement, le texte ne nous le dit pas, avec les pharisiens et la foule et la situation. On sait avec la suite, avec Jésus, etc., qu'il y aura des moments où les disciples vont avoir vraiment peur. Il y a peut-être aussi simplement un petit peu Dieu qui leur dit, vous voyez la foule là, les pharisiens qui veulent, qui, s'ils le pouvaient, nous zigouilleraient tous là tout de suite. N'ayez pas peur, vous devez avoir peur. Eux, ils peuvent vous tuer, mais Dieu, il peut vous envoyer en enfer. Et c'est fou de se dire que là, sur les disciples, ils ont quasiment tous fini martyrs. Ils ont pris ce que Jésus leur avait enseigné, ils l'ont vraiment appliqué. Et il y a des gens tout au cours de l'histoire, et il y a des gens de nos jours qui le font encore. C'était, si vous connaissez un monsieur qui s'appelle Jim Elliot, qui est une histoire connue, sa femme a fait le ministère et lui était parti et mort en évangélisant des tribus en Amérique du Sud. Et lui disait, il a une citation qui est très connue, qui disait « Un homme n'est pas idiot de donner ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » On va perdre la vie. On va mourir. Et lui dit « Ça, on ne peut pas le garder, mais la vie éternelle, on peut la gagner et l'avoir. Et ça, après, on l'aura. » C'est difficile, mais on a Dieu de notre côté. Et en plus de se dire on devrait avoir plus peur de Dieu, en plus on a pas seulement cette crainte, cette peur, mais en plus on a cette assurance que Dieu, il se soucie de nous. Et le texte continue et nous dit, il y a même des oiseaux qu'on vend pour deux, trois fois rien, mais Dieu ne les oublie pas. Vos cheveux, il sait combien il y en a. Vous lui demandez, il a l'affiche sur sa page Facebook avec vous en ami, mais il a bien plus de détails que ce que nous, on est prêts à mettre. Et on vaut beaucoup plus que les moineaux, que les oiseaux. Le texte, il va continuer après dans la suite. Cette idée que Dieu, il fait attention à nous. Ça et les choses qui viennent dans la suite, ça devrait nous pousser, nous encourager à vivre sans crainte, sans peur dans notre vie. On a le Dieu qui décide de tout de notre côté. Verset 8, je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Si on dit aux gens qu'on croit en Jésus, si on est ouvert avec ça, Dieu nous promet une récompense, une belle récompense, un honneur devant le trône de Dieu. Et par contre, pour ceux qui ne le font pas, il y aura une disgrâce, une honte. On a vu le texte dans j'en ai parlé plusieurs fois dans Matthieu où il dit faites attention, il y a plein de gens qui vont arriver au ciel, qui vont dire Seigneur, Seigneur, et là ce sera la honte. Je dirais, je vous ai jamais connu, vous êtes pas de mon côté. Vous avez fait semblant, vous avez dit les bonnes paroles pour plaire aux gens, mais moi ce que je voulais, vous y avez pas fait attention. Ça doit nous inciter à avoir cette peur de Dieu, de chercher ce qu'il veut dans nos vies, de sonder la parole de Dieu pour savoir ce que nos vies, nos actions amènent. Ici, c'est encore, il appelle, c'est le pour ou le contre. Soit on confesse Jésus devant les hommes, soit on le renie. Par rapport aux disciples, encore une fois dans la situation, ça devait être intéressant parce qu'il y a cette popularité grandissante, cet effet de foule. Et on a l'impression presque que Jésus dit, vous ne l'aurez pas. Il y a plein de gens ici qui sont là, mais qui ne sont pas prêts à faire ce que je veux, qui ne sont pas vraiment de mon côté. C'est un petit peu une des constantes dans l'histoire de l'Église. Souvent, l'Église est plus vivante et plus efficace, grandit plus et a plus d'influence sur la société, sur l'histoire du monde quand elle est persécutée. Et je pense que la raison un petit peu simple, et beaucoup semblent être en accord avec ça, c'est que les faux, les hypocrites, quand ça leur coûte quelque chose, ils sont plus là. Et du coup, il y a une ferveur et une réalité. Nous, on a ce luxe d'avoir la liberté de nous appeler chrétiens, de pas souffrir de conséquences physiques ou matérielles dans notre société. Mais je dois, par rapport à ça, faire d'autant plus attention à ce que je sois pas hypocrite. Moi, ça me coûte rien. Si ça me coûtait quelque chose, si je devais me tenir devant des tribunaux comme certaines personnes, même aujourd'hui dans certains pays, et dire je crois en Jésus, même si ça veut dire je perds tout, je suis renié, je suis rejeté, je suis tué, Dieu seul sait ce qu'il en serait. Mais ça nous peut-être un petit peu comme les disciples dans cette situation, ça doit nous inciter à nous examiner nous-mêmes. C'est une chance et on remercie Dieu pour cette liberté, mais en même temps, je dois mesurer la réalité de mon cœur. Est-ce que je suis pas trop confortable? Est-ce que je suis pas trop facile par rapport à ce que je présente au monde? Est-ce que je confesse Jésus? Est-ce que je suis prêt à le dire? Le verset 10, il dit « Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. » Il y a l'impression qu'ici, il y a une, c'est un petit peu, bon, bah, par un moment de faiblesse, il est prêt à pardonner. Et le texte, juste après, « Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. » C'est un texte qui fait couler beaucoup d'encre encore de nos jours, dont on discute beaucoup. Et je pense que c'est simplement le fait que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de témoigner à propos de Jésus. Dans Jean 15, 26, il est dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit et que c'est lui qui témoigne de Jésus. C'est lui qui nous convainc de la réalité de qui Jésus est. C'est lui qui nous fait comprendre qui Jésus est. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à accepter Jésus, qui nous convainc de notre besoin de Jésus. Et si on renie, si on blasphème contre le Saint-Esprit, c'est en quelque sorte qu'on n'accepte pas qui Jésus est et ce qu'il a fait. C'est qu'on refuse le pardon que Dieu veut nous accorder. Et on vient à ce texte et on se dit, on a un petit peu peur, qu'est-ce que le blasphème si je dis la formule magique et c'est fini, je suis plus pardonné. Mais je crois pas que ce soit ça, c'est plutôt cette idée d'endurcissement de nos cœurs où on refuse l'effet que le Saint-Esprit peut avoir sur nous et on dit de manière répétée, non, je ne veux pas. Je ne veux pas croire à Jésus. Je ne veux pas accepter ton pardon, Dieu. Et Dieu, à un certain moment, dit, OK. Et à ce moment-là, c'est en quelque sorte final, bien que Dieu continue et qu'il nous fait grâce et que je pense qu'il peut encore nous parler et que même après ça, pour des gens dans leur vie, suivant les circonstances, ils peuvent être amenés quand même à croire en Jésus. L'idée ici, c'est plutôt la fin de nos vies. C'est comment on aura répondu au Saint-Esprit. Un petit peu de manière, une illustration que j'ai trouvée intéressante, un parallèle qui me permet un petit peu de mieux comprendre, c'est le peuple d'Israël par rapport à leur histoire et à comment ils ont accepté Jésus et le Saint-Esprit, c'est de se dire qu'on peut considérer qu'ils avaient une relation avec Dieu le Père dans l'Ancien Testament, même peut-être avec Jean-Baptiste. Ensuite, il y a eu Jésus-Christ qui est venu, qu'ils ont rejeté aussi. Et puis il y a le Saint-Esprit qui est venu, on le voit dans Actes, dans le Nouveau Testament, l'Évangile est venu d'abord aux Juifs, c'était d'abord en Israël, et cet effet de l'Esprit-Saint que Jésus avait envoyé, les apôtres, l'Église au début, les Juifs l'ont rejeté, ils se sont endurcis. Et ça a amené une condamnation. Et c'est un petit peu cette idée-là. On refuse le Saint-Esprit, on refuse jusqu'au bout, on rejette Dieu, et à un moment, on se condamne en quelque sorte tout seul. Mais déjà, le simple fait de se dire, de se soucier de ça, a priori, c'est une indication on a déjà conscience qu'on a besoin d'une aide et qu'on est déjà sensible aux paroles et qu'on est, le fait déjà de s'inquiéter, si vous dites, j'ai peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. En général, moi, je dirais que c'est une indication que non. Sinon, une fois qu'on a rejeté l'effet du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, on dit, il n'y a plus rien qui nous inquiète. Enfin, c'est pas, ça nous, on se soucie plus de ce que Dieu peut penser de nous. Et le verset 11. Quand on vous conduira dans les synagogues, devant les magistrats ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. On sait qu'il y a eu de la persécution, ça nous rappelle des passages dans le Nouveau Testament, avec Pierre, avec Paul, avec Étienne. qui sont amenés à se défendre devant des magistrats, devant des autorités. Et Jésus, il les rassure, il dit, il y aura le Saint-Esprit aidera à ce moment-là. C'est peut-être par rapport à une peur que les gens pourraient avoir à ce moment-là, de se dire, je veux pas renier Jésus, je veux tenir bon. Mais dans certaines situations, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas exactement comment on va réagir. Si on tient bon jusqu'à la fin, et puis à la fin on renie Jésus, et qu'on se dit on a tout perdu, et à la fin on a l'impression que Jésus les rassure et vous dit il vous donnera de la force dans ces situations où vous n'êtes pas sûr de comment vous allez réagir. Ce verset, entre parenthèses, n'est pas une excuse pour pas étudier la Bible et pour pas être prêt et pour pas connaître la Bible. C'est pas une excuse pour que moi je vienne ici et que je dise vous êtes des magistrats et des autorités, j'ai rien préparé et l'Esprit Saint va parler, quoi. Il y en a qui l'interprètent comme ça, qui disent oui, bon, ben, je fais rien et le jour J, quand j'ai besoin de parler de Jésus, ça viendra tout seul. Non, c'est pas ça ce que le texte dit, on est d'accord, hein. On doit connaître la Bible. Et mieux on la connaît, plus Dieu peut nous utiliser parce qu'il peut nous inciter à, on a cette compréhension qui est facile pour Dieu d'utiliser. On doit étudier la parole. Une autre petite chose par rapport à ce passage et l'idée de confesser Jésus, c'est, vous avez peut-être entendu une citation qui est mal attribuée d'ailleurs, mais qui dit, en gros, qu'on doit prêcher tout le temps et quand c'est nécessaire avec des paroles, avec l'idée que en quelque sorte on doit vivre comme des bons chrétiens, que les gens voient nos vies et soient convaincus de quelque chose, et que si jamais il y a besoin, alors là peut-être en dernier ressort on doit parler. Mais ce passage-là et puis le reste de la Bible ne dit pas ça du tout. On doit bien vivre. On doit être un exemple, on doit être des lumières par nos comportements, mais on doit parler aux gens, on doit partager l'évangile. Qui de vous est venu à Jésus parce que vous avez vu quelqu'un faire quelque chose de bien? Non, quand on le dit comme ça, ça a aucun sens. Mais on a cette idée des fois que peut-être si on est assez bon et qu'on se comporte assez bien, les gens d'une manière miraculeuse vont venir à Jésus. Mais Paul, par exemple, dans Romains 10, 17, dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on entend la parole de Dieu? C'est parce qu'il y a des chrétiens qui la partagent. Dans 1 Pierre 3:15, mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur, soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Soyons prêts à partager l'évangile, à partager ce que nous croyons. Jésus est en train de parler, il est en train de partager avec ses disciples, et là il y a un gars qui crie du milieu de la foule en impertinent, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » C'est comme si on était en train de discuter et qu'il y avait le voisin qui rentrait et qui criait, vous pouvez expliquer au voisin d'à côté là, il doit faire ce qui est bon. Alors vous êtes des chrétiens, donc vous, maintenant vous pouvez aller lui expliquer comment il faut faire. Ça, encore une fois, Jésus répond avec grâce et gentillesse, mais ça sonne vraiment comme une interruption. Et donc, on va regarder ce frère qui vient. Il a envie, il veut que il y a l'héritage. Et en gros, il y a deux frères qui se battent. Et il y en a un qui, il y avait des règles à l'époque, etc. Mais en quelque sorte, il dit, ce qu'il fait, c'est pas le bon droit. Je suis dans mon bon droit. Il devrait me donner ce qui me revient de droit. Dis-lui de faire justice. Et c'est intéressant parce que Jésus refuse de rentrer dans son jeu, refuse de rentrer dans cette situation, alors qu'on pourrait se dire, mais il dit pas que c'est pas juste, il dit pas que la demande n'est pas bonne, mais il voit à travers cette personne et il voit qu'en fait la motivation, la chose qui le motive, c'est pas vraiment la justice, c'est quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose de, c'est une cupidité, c'est une convoitise. Et Jésus, comme d'habitude, il voit le vrai problème et il s'adresse au problème. Le problème, c'est pas que le gars n'a pas l'argent qui lui revient. Le problème, c'est que l'homme ne sait pas comment vivre et ne voit pas les péchés qui pourrissent sa vie. Et dans ce cas-là, c'est le péché de convoitise. Et s'il obtenait son héritage comme c'était son bon droit, ça ne résoudrait pas le problème du péché qui pourrit sa vie. Et parfois, Dieu nous laisse dans certaines situations. Parfois, on se dit, mais c'est ça qui devrait être bon. Mais en fait, on se trompe. Il y a quelque chose derrière qui, un autre péché. Pour moi, dans ma vie, j'ai l'impression que des fois, Dieu me laisse et me laisse un petit peu macérer jusqu'à ce que je comprenne quel est le vrai problème. Et ici, la situation avec ses frères, c'est quelque chose qui la convoitise, les divisions à cause de ça. Si vous réfléchissez à ce que la convoitise, l'envie de posséder ce qui appartient à l'autre, a causé dans nos vies, dans la vie de gens qu'on connaît, dans l'histoire du monde, c'est quasiment toujours l'origine des guerres. Il a le pétrole là-bas, on va aller le zigouiller. Il a la bague au doigt, il a l'or, il a ceci. C'est vraiment, je sais pas moi, pensez, est-ce que vous connaissez des gens qui ne parlent plus à quelqu'un d'autre dans leur famille proche à cause d'une situation avec un héritage, avec quelque chose, il a pas été droit avec moi, il m'a menti, il m'a quelque chose, il aurait dû me donner ça, etc., etc. C'est tellement triste de voir des familles divisées, de voir des gens qui perdent la richesse d'avoir une famille qui est une telle richesse de Dieu parce que ils veulent de l'argent. Je sais pas, enfin, moi, dans mon cas personnel, j'espère et je pense actuellement que ma famille vaut mille fois plus, vaut infiniment plus que de l'argent. Ça me servirait, je ne voudrais pas avoir 1 million d'euros si ça voulait dire que je devrais me battre toute ma vie avec mes parents, avec mon frère, avec ma femme, avec mes enfants. Et ça, alors on réfléchit à ça, mais c'est l'idée, c'est est-ce qu'on a de la convoitise dans nos cœurs et est-ce que ça va nous pousser à faire des choses? Est-ce que ça va nous causer on doit s'examiner pour regarder si on a ça en nous, on doit l'enlever. Jésus nous dit ne convoitons pas. Ici, il n'y a pas de symbolisme, c'est très simple, on ne doit pas convoiter. Ne convoitons pas ce que les autres ont et ce que nous, on n'a pas. Apprenons, faisons l'effort ensemble, et je me dis ça à moi-même. Combien de temps est-ce que vous avez passé cette semaine, j'en sais rien, à regarder des trucs à acheter sur Internet? C'est tellement facile de nos jours à se dire... C'est fou, quoi. Ou même à envier des gens, des collègues ou des gens dans notre famille, des amis qu'on a, des gens qui ont le pouvoir, et de se dire qu'on a cette convoitise, et ça n'amène que des mauvaises choses d'avoir ces choses-là. Libérer un homme de la convoitise, ça amène la paix. Et je pense, mon humble avis personnel en vulgarisateur de l'économie et des modèles sociopolitiques dans le monde, c'est que la réussite du capitalisme, c'est qu'elle arrive à donner suffisamment à tout le monde pour qu'il soit pas trop à convoiter ce qu'a l'autre. On arrive tous à avoir suffisamment pour qu'on soit assez confortable, pour qu'on soit pas prêt à faire des choses innommable à nos voisins pour avoir ce qu'ils ont. C'est ça la réussite, c'est pour ça que pour moi, en parenthèse, que le capitalisme marche bien. Elle amène une certaine paix parce que tout le monde a à peu près ce qu'il faut. Et de nos jours, j'ai l'impression que les limites du capitalisme arrivent, d'une certaine manière, sans vouloir nous affoler, parce que il y a le reste de la planète qui a pas, qui est en train de convoiter ce qui n'existe pas chez eux, ce qu'ils n'ont pas eux. Et ça amène des luttes, des difficultés. Ils immigrent ici, ils veulent avoir notre travail, ils veulent avoir notre argent, et nous on est là, et ça cause des tensions dans tous les sens. Nous, en tant que chrétiens, on doit pas convoiter. On doit se satisfaire de ce que Dieu nous donne. Lisons le verset 16, la parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On ne sait pas grand-chose de cet homme, on ne sait pas s'il était bon ou mauvais. Ce qu'on sait, c'est qu'il a bien travaillé. A priori, il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Le problème ici, c'est que tout s'arrêtait pour cet homme à lui-même et à cette vie ici-bas. Il n'avait aucune vision de Dieu, des autres et de la vie qui venait après. Ça commence, c'est intéressant, il a bien bossé, il a beaucoup de choses et ça lui pose encore davantage de soucis. D'être riche, ça n'amène pas forcément une paix et une tranquillité. On est obligé de s'occuper de toutes les richesses qu'on a. On est obligé de construire encore des plus grands trucs pour s'en occuper parce que sinon on va le perdre. On aurait dit qu'il était un succès dans le monde. Mais Dieu lui dit, il a donné trop d'importance aux choses matérielles, il a donné trop d'importance aux choses de cette vie. Et le mot qu'il utilise ici, c'est stupide, sans intelligence, sans raison. Encore une fois, il avait donné de l'importance à cette vie ici, et il n'avait pas pensé à Dieu, il s'inquiétait pas de ce que Dieu pensait. Le problème en lui-même n'est pas qu'il est riche, le problème est qu'il est pauvre envers Dieu. On peut être riche et riche, on peut être riche envers Dieu, utiliser l'argent qu'on a pour la gloire de Dieu, utiliser nos vies, investir dans le royaume de Dieu. Dans 1 Timothée 6, 17, il est dit aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Souvent, on a peur de la pauvreté, on a peur de pas avoir assez. Mais je pense que nous, en tant qu'habitants du monde occidental, dans la partie riche de la planète, soyons honnêtes, on devrait avoir peur et on devrait aussi s'examiner par rapport à la richesse que nous avons, par rapport aux choses dont nous profitons. Et l'inquiétude qui vient après. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs, elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. L'avarice, la cupidité, la convoitise et l'inquiétude, les soucis, se faire des soucis, sont liés. L'une, c'est l'envie d'avoir plus, de toujours se dire « il m'en faut plus pour être content ». Et l'autre, c'est « je vais peut-être pas avoir assez pour être content ». Et dans les deux cas, c'est un péché parce que c'est ne pas prendre Jésus en compte, c'est pas prendre Dieu en compte, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Quelqu'un qui se fait du souci pour quelque chose, une situation qui est autant un pécheur que quelqu'un qui convoite quelque chose. Le texte ici ne veut pas dire qu'on ne doit pas être responsable, qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas préparer les choses, qu'on doit vivre en mode « je vis pour la journée et puis demain, on verra ce qui se passe, Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, etc. etc. » Non, c'est une question de sagesse, c'est une question de fais ton travail bien aujourd'hui, fais ce que tu sais que tu dois faire maintenant et ce qui doit arriver demain, ne t'en inquiète pas. C'est un commandement plein d'amour, c'est un petit peu comme la rancune, c'est un petit peu comme la colère envers les gens. L'inquiétude, se faire du souci, ça pourrit la vie physique. Les études, les docteurs font des études où ils regardent les gens qui se font du souci, ils ont des problèmes de tension, de cholestérol, de sommeil, de... Jésus, là, il nous aime, il nous dit, si vous me faites confiance, vous vivrez mieux. Il y avait une femme, Corrie ten Boom, qui était dans les camps en Allemagne, qui disait « Se faire du souci n'enlève pas la souffrance de demain, mais il vide aujourd'hui de sa force ou de son potentiel. » Ce qui arrivera, on n'a pas forcément de possibilité de le changer, mais on peut. Jésus veut qu'on profite d'aujourd'hui. Et Jésus, ici, avec les oiseaux, il dit presque que si on est comme ça, à se soucier tout le temps des choses bassement matérielles, on est presque comme des animaux. Et il nous dit, l'homme, la vie, il y a plus que ça. On doit faire confiance à Dieu. Et si on se soucie trop ou qu'on convoite trop, qu'on est trop dans ces deux extrêmes, en quoi est-on différent des gens du monde? Jésus nous dit, mais ce sont les gens du monde qui font ça. Si je crois vraiment à Jésus, si je crois vraiment à ces paroles simples ici, si ce n'est pas des paroles qui demandent des années d'études pour comprendre. On est d'accord, c'est vous inquiétez pas. On peut faire confiance à Dieu. Il s'occupe de la nature, il s'occupe des choses et on peut avoir cette paix, on peut avoir cette tranquillité, on peut profiter de nos vies. C'est un mauvais témoignage en plus pour les gens. Quand on se soucie, c'est comme si on disait, mais Dieu, oui, je crois en Jésus. Il a aucune idée de quoi que ce soit dans ma vie et du coup je suis obligé de me soucier tout seul de toute ma vie quoi. Mais crois en Jésus, c'est bien. Je crois qu'il dort là. Non, c'est un mauvais témoignage. C'est mentir à propos de Dieu. Dieu se soucie de ses enfants. Et puis il nous donne le remède et la manière pour ne pas nous soucier. La vie chrétienne souvent nous dit ne faites pas ça, ça c'est mauvais. Mais on a déjà dit que pour remplacer une mauvaise habitude, il faut prendre une bonne habitude. C'est pas ne pensez pas aux mauvaises choses et on se dit bon je pense à rien. Non, c'est penser aux bonnes choses. Et Dieu nous dit ne vous souciez pas des choses, des problèmes du monde, souciez-vous du royaume. Ça doit être ça notre préoccupation. On en a parlé avec le Notre Père au début du chapitre 11, c'est le royaume de Dieu, les choses de Dieu. Ce qu'il nous demande de faire, la manière dont il nous demande de vivre, sa réputation, sa gloire qui doit nous concerner. Et justement, quand on dit « sois glorifié Dieu », Dieu soit glorifié, quand on prie le Notre Père et qu'on dit « Dieu, que tu sois glorifié. Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu si on dit aux gens, mais Dieu, il se soucie pas de moi et je m'inquiète pour tout et rien comme tout le monde, comme si j'avais pas Dieu. On doit apprendre à faire confiance. On doit Si vous passez votre temps à lire la Bible, à vous dire, bon, qu'est-ce qui veut que je fasse? Comment il faut que je vive? Qu'est-ce que ce texte me dit? Etc. C'est déjà du temps que vous passez pas à vous dire, bon, bah, c'est ça qui doit remplacer les soucis. C'est de réfléchir à la parole de Dieu, de réfléchir au royaume. Et il promet en plus de s'occuper de nous si nous nous soucions du royaume, si c'est notre préoccupation. Cette absence de peur de se dire que Dieu s'occupe de nous, en plus ça nous permet d'être beaucoup plus généreux, ça nous permet d'avoir de la grâce pour les gens, ça nous permet de d'aimer les gens autour de nous. Quand on a peur, ça nous coupe de ces capacités-là. Quand on a peur de pas avoir assez, comment est-ce qu'on peut donner? Si j'ai pas assez à manger, je me dis, ah, je sais pas, demain je vais peut-être pas avoir assez, les 5 euros que j'ai là, ça... Je ne vais jamais les donner. Ce rapport avec nos possessions matérielles est un autre indicateur sur la santé, l'état de notre santé spirituelle. Et il finit avec ce passage qui est connu. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il dit « investissez dans les bonnes choses » et il dit « il y a un lien direct entre ce qui nous préoccupe et notre cœur, entre notre trésor et notre cœur. » Et ça se manifeste par nos actions. Et il dit « il y a des choses sur terre, on peut se soucier, on peut passer tout notre temps, mais ça va disparaître. » Alors que si on investit dans le royaume, ça, on va pas le perdre. C'est ce que disait Jim Elliot, ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et en revenant à ça, en revenant au texte, Jésus parlait encore à ce gars qui demandait « Je veux avoir mon héritage. » Il dit « T'inquiète pas pour ça. » Et c'est d'ailleurs intéressant, si le monde vivait pour le royaume de Dieu, si les gens vivaient comme Jésus le demande, ce genre de situation n'arriverait même pas. Et il prévient cet homme, il lui dit, tu pourrais avoir cette richesse, tu peux te soucier et te battre pour avoir ton petit bout de gras, mais tu le perdras. Et lui, il le prévient, il lui dit, investis dans le royaume de Dieu plutôt, laisse ça de côté, investis dans le royaume de Dieu. Préoccupe-toi de comment tu dois vivre. Et ça, tu le perdras pas, ça, ce sera une vraie richesse. Je dois m'examiner, savoir où est mon cœur et voir si mes actions sont en accord, C'est presque une manière de changer notre cœur, c'est de donner, de dire bon ben, je m'attache trop à ces choses-là, peut-être que je devrais m'en débarrasser. Ça me libère, ça me garde de ça. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait peut-être même prendre du temps et prier sur les affaires qu'on a à la maison, de se dire est-ce que je devrais garder ça, c'est peut-être un peu trop spiritualisé et peut-être un petit peu trop long et compliqué, mais regardons ensemble où est notre cœur, où est notre trésor, qu'est-ce que nos actions disent, qu'est-ce que nous faisons de nos journées, qu'est-ce qui nous préoccupe et est-ce que nous privilégions le royaume de Dieu. Est-ce que c'est ça qui nous concerne le plus? Prions. Jésus, merci pour ce matin, merci pour tes promesses, merci pour ta grâce dans nos vies, merci parce que tu es mort pour nous, merci parce que tu veux nous changer, Seigneur, tu veux nous libérer des chaînes que Satan veut nous mettre, tu veux que nous ayons des vies bonnes, des vies riches, pas forcément comme nous le comprenons, comme le monde le comprend, Seigneur, mais comme toi tu le comprends, comme toi tu nous as créés pour vivre une vie abondante en toi. Aide-nous à t'obéir, aide-nous à ne pas convoiter, aide-nous à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à rechercher ton royaume. Aide-nous à chercher ce que tu veux et à vivre comme tu le veux, Seigneur. En ton nom, nous prions ce matin. Amen.